Ah, bonjour.
Bonjour, une trentaine de morts, des dizaines de blessés, de disparus, des toits effondrés, des zones inondées par des vagues de 10 mètres de haut, des incendies et des explosions. Le Japon a été frappé ce matin par le plus violent tremblement de terre de son histoire. Un séisme de 8,9 sur l'échelle de Richter. Nous rejoindrons notre correspondant à Tokyo, George Baumgartner. Et nous recevrons Corinne Frischknecht, spécialiste des risques naturels au Centre d'études des risques géologiques de l'Université de Genève. L'actualité du jour, c'est aussi la Libye. Nous appellerons notre envoyé spécial à Benghazi, Alexandra Bay, où les rebelles perdent du terrain après avoir été chassés de Ras Lanouf par l'armée régulière. Nous irons ensuite à Bruxelles pour voir avec Alain Franco ce que compte faire l'Union européenne pour stopper la sanglante répression orchestrée par Muammar Kadhafi. Faire le point sur notre relation à l'argent, c'est le but d'un atelier qui se déroule ce week-end à Saint-Maurice-en-Vallée. Organisé par Christian Junot, un coach qui a travaillé dans le monde de la finance internationale pendant une vingtaine d'années, ce séminaire invite les participants à réaliser que l'argent n'est finalement qu'un support vide dans lequel chacun projette ses propres croyances. Christian Junot sera notre invité à la fin de ce journal. Du soleil et 15 degrés en pleine, c'est en substance le menu météo du jour. Encore un peu de ciel bleu demain matin, puis les nuages gagneront du terrain pour donner des averses généralisées dimanche sur nos régions, sauf en Valais où le temps restera sec, nous dira Stéphanie Coller. 32 morts, c'est le dernier bilan officiel fourni ce matin par l'agence japonaise de gestion des incendies et des catastrophes après le terrible séisme qui a frappé l'archipel ce matin. Un séisme d'une magnitude de 8,9 sur l'échelle de Richter, c'est la plus violente secousse jamais enregistrée dans le pays. Le tremblement de terre a provoqué un tsunami de 10 mètres de haut qui a balayé bateaux, voitures et bâtiments dans les zones touchées, George Baumgartner.
Bien, vous avez peut-être entendu une voix de la direction de l'immeuble qui abrite le club ici à Tokyo et qui vient de nous dire qu'il ne faut toujours pas sortir de l'immeuble où nous nous trouvons. Nous sommes au 20e étage. L'on nous dit aussi qu'il ne faut pas chercher à rentrer chez soi, même à pied. Pour rentrer chez moi, il faut plus d'une heure à pied. Ce n'est pas grave, mais pour d'autres qui habitent dans les endroits les plus reculés du centre de Tokyo, il leur faut, par le biais des transports en commun, plus d'une heure et demie. Donc c'est impossible pour des millions de Tokyoïtes qui se trouvent maintenant au centre de Tokyo, qui n'arrivent pas à quitter leur bureau, de rentrer chez eux cette nuit. Pourquoi ? Parce que l'on craint d'autres répliques depuis la formidable secousse qui a frappé le nord-ouest du Japon à 300 km au nord de Tokyo. L'on a enregistré des centaines de répliques et certaines, surtout si on se trouve en altitude, comme ici au Press Club, sont sensibles à l'homme et causent toujours d'énormes frayeurs.
On sait, vous, George Baumgartner, que vous êtes depuis de nombreuses années à Tokyo, que les Japonais ont l'habitude de ces tremblements de terre. Mais ce séisme de ce matin, c'est le plus violent enregistré dans l'histoire du Japon. Ça fait toujours un choc.
Oui. On ne s'habitue jamais à de tels séismes, mais le Japon est peut-être le pays au monde le plus préparé pour y faire face. Prenez par exemple cet énorme tsunami qui, juste après la secousse, de façon peut-être plus rapide que l'on pouvait anticiper, et qui a frappé les côtes du nord du Japon. Et si vous voyez les images impressionnantes vécues en direct, filmées en direct par la télévision japonaise, comprendrait à quel point le danger couru par les gens qui auraient pu se trouver le long de ces côtes. Eh bien, juste après la secousse, le Japon a réussi à alerter des milliers d'habitants vivant le long de ces côtes de les évacuer le plus vite possible. Et par exemple, une petite ville d'une cinquantaine de milliers d'habitants, elle a réussi très vite à évacuer 20 000 d'entre eux qui se trouvaient proches des côtes. Ça montre la capacité du Japon à faire face à de tels séismes. Et bien sûr, le gouvernement parle de dégâts très importants. Il tend, les deux premiers jours après une telle secousse, à minimiser l'ampleur des dégâts sur le plan humain en particulier, parce que ce soir encore, des millions de Japonais tentent, par le biais de leur téléphone portable, d'entrer en contact avec leurs proches, pour leur dire que tout va bien. Mais une fois encore, le Japon est sauvé dans une large mesure par ses infrastructures antisismiques.
Notre correspondant à Tokyo, Georges Baumgartner. Nicolas Vultier a recueilli tout à l'heure le témoignage d'Alexandre Hara, un ressortissant japonais francophone qui travaillait à son bureau en plein centre de Tokyo au moment de la secousse. Écoutez.
Alors, il y a une secousse qui est venue verticalement. Et après, ça a continué vers une secousse à l'horizontale, mais ça a duré à peu près plus de 2 minutes, même plus. On a souvent des tremblements de terre au Japon, mais souvent ça termine dans 30 secondes. Donc ça a été quand même un événement assez terrible, quoi. Ça nous a revenu la mémoire du tremblement de terre de Kobe, quoi. Parce qu'on a connu une désastre assez grave. En plus, quand on attend un grand tremblement de terre qui va arriver dans un terme de 20 ans, on ne sait pas quand exactement, mais on est sûr qu'il y aura, quoi. Donc on se disait que c'est aujourd'hui le jour qui est arrivé.
Au Japon, on est préparé à ce genre d'événement ?
Pour le tremblement de terre, oui. Mais surtout que les bâtiments, ils sont dessinés pour la stabilisation du anti-tremblement de terre, si je peux dire. On est en sécurité pour les bâtiments, surtout en ville. Mais à la campagne, les maisons sont faites c'est en bois, quoi. Et surtout dans la région où il y a eu le tremblement de terre, ce n'est pas une très très grande ville. Donc ce sont des fermiers ou des petites maisons, des petits appartements qui ne peuvent pas supporter une telle puissance d'eau, quoi. Donc même s'ils sont préparés, ils ne pouvaient rien faire. Maintenant, je me suis inscrit dans les volontaires pour ce week-end. Donc s'ils ont besoin de l'aide, je suis prêt à partir. Mais en fait, bon, jusqu'à présent, on savait qu'il y aurait un tremblement de terre un jour. Mais quant à moi, je ne suis vraiment pas rendu compte de la gravité. Donc je crois que je vais revoir tous mon sac de sauvetage. Et puis comment se rejoindre s'il y aurait une grande tremblement de terre à Tokyo même.
Une dépêche qui nous parvient à l'instant fait désormais état de 44 morts, de nombreux disparus donc après ce séisme et le tsunami qui a suivi ce tremblement de terre au Japon. Corinne Frischnecht est avec nous en duplex de nos studios de Genève. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géologue, spécialiste des risques naturels au Centre d'études des risques géologiques de l'Université de Genève. Vous confirmez que c'est le plus violent tremblement de terre jamais enregistré au Japon?
Ça fait partie d'un des séismes les plus puissants qui est arrivé au Japon, effectivement.
Alors, on sait que le Japon connaît de fréquents séismes. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu sa situation géologique?
Le Japon est en fait situé dans une zone de subduction, c'est-à-dire qu'on appelle ça, c'est la rencontre de la plaque océanique, donc de l'océan Pacifique, et de la plaque eurasienne. Donc, la plaque de l'océan Pacifique passe sous la plaque eurasienne, d'où la zone de subduction. Et en fait, ces zones-là sont typiquement connues pour générer de forts tremblements de terre.
Est-ce que la secousse a été détectée par nos services sismiques ici en Suisse?
Les capteurs sismiques, oui, ont enregistré la secousse. Celles de Genève et probablement celles qui sont installées à travers la Suisse, oui.
Une première réplique a eu lieu vers 11h ce matin au Japon. Elles peuvent également faire d'importants dégâts. Généralement, elles durent plusieurs heures, plusieurs jours.
Alors, les répliques, en fait, durent plusieurs années. Simplement, c'est la magnitude qui va diminuer au fil du temps. En général, on dit que si, pour justement un séisme du type du Japon, donc de 8,9, on peut s'attendre à avoir des répliques de 7,9. Et ensuite, ça va aller en diminuant au fil du temps. On peut s'attendre à plusieurs jours et plusieurs semaines, oui.
On a vu qu'une alerte au tsunami a été lancée dans le Pacifique. On arrive à prévoir exactement à quel moment vont arriver les vagues?
Alors, à quel moment on peut dire en fait le nombre d'heures qui sépare entre la source et la zone qui va être affectée? Comme c'est l'océan Pacifique, en fait, si vous voulez, entre le Japon et le Chili, il y aura 22 heures qui séparent donc du Japon au Chili. Donc le tsunami va mettre 22 heures à atteindre le Chili.
Mais par contre, on ne sait pas quelle sera l'intensité de la vague qui arrive.
La hauteur de la vague, il y a sûrement des modèles qui existent et qui vont dire l'ordre de grandeur de la vague, oui.
Merci beaucoup de ces explications, Corinne Frischnecht. Je rappelle donc que vous êtes géologue spécialiste des risques naturels au Centre d'études des risques géologiques de l'Université de Genève. Vous répondiez à l'invitation de Frédéric Pfiffer. Merci. Et ce séisme survenu au large du Japon fait aussi trembler les principales places financières européennes qui sont dans le rouge ce matin, Dominique Chauffard.
En France, l'indice CAC 40 recule de plus de 1%, moins 1% aussi à la Bourse de Francfort. Et l'indice des valeurs suisses, le SMI, recule de 0,7%. Le réassureur suisse Ré pèse dans ce résultat avec une chute de 5,7%. Il faut dire que le violent séisme de ce matin a déjà des conséquences sur l'économie nippone. Les transports aériens et ferroviaires sont interrompus dans une grande partie du Japon et les autoroutes de la région de Tokyo ont été fermées quelques minutes après le tremblement de terre. Conséquence aussi pour les 4 centrales nucléaires japonaises, les plus proches de la zone frappée par le séisme. Elles ont été arrêtées ce matin et dans le quartier d'affaires de Ginza, des milliers de salariés sont restés massés dans les rues de crainte de réplique.
Et le cours de la monnaie japonaise est aussi influencé évidemment par les conséquences économiques à venir de ce séisme, Dominique.
Oui, le yen a en effet commencé par chuter juste après l'annonce du séisme. La monnaie japonaise est descendue à son point le plus faible depuis 2 semaines face au dollar à 83,3 yens pour 1 dollar. Mais le yen s'est repris, progresse même de plus de 0,8% la mi-journée. L'une des hypothèses qui explique ce phénomène, c'est que les investisseurs se sont souvenus du tremblement de terre de Kobe. C'était en 1995. Les Japonais, à la suite de ce séisme, avaient rapatrié leur argent, ce qui avait fait monter la valeur de leur monnaie. Alors beaucoup de spéculation, en tout cas autour du yen ce matin. D'autant plus que cette monnaie est très très particulière. Le Japon souffre de déflation depuis près de 2 ans. Le taux d'intérêt est donc au plancher depuis une longue période. Et ça, eh bien, ça modifie la réaction des investisseurs.
Dominique Chauffat de notre rubrique économique. Vous pouvez suivre en temps réel l'évolution de la situation au Japon avec photos, vidéos et sons sur notre site internet rsrinfo.ch. En Libye, les dernières informations en notre possession font état de poches de résistance rebelle dans le port pétrolier stratégique de Ras Lanouf après les violents combats qui les ont opposés aux troupes de Muammar Kadhafi. Sur le plan diplomatique, un conseil européen extraordinaire se réunit aujourd'hui à Bruxelles avec pas mal de déclarations choc et de propositions déjà ce matin, Alain Franco.
Oui, à commencer par celle de Nicolas Sarkozy. Alors vous le savez, cela fait 24 heures que l'Elysée distille des informations au compte-gouttes sur des propositions possibles de frappes militaires ciblées et extrêmement limitées, histoire de préparer les esprits de façon plus ou moins maladroite. Mais toujours est-il que ce matin, en arrivant au Conseil européen, le président français a précisé son offre, faite, dit-il, en concertation avec le Royaume-Uni. Des actions ciblées, purement défensive, en cas d'usage par le colonel Kadhafi d'armes chimiques ou de l'aviation pour tirer contre des populations qui manifestent sans violence, dit Nicolas Sarkozy. Cela se ferait à la condition que les Nations Unies le souhaitent, que la Ligue arabe l'accepte et que le Conseil de transition libyen le demande. C'est bien sûr le sujet le plus polémique de ce sommet. L'Allemagne est très réticente, par crainte d'être aspiré dans une guerre en Afrique du Nord. Et ce matin, un peu plus tôt, le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères avait mis en garde Paris contre tout geste théâtral. La France demande aussi de reconnaître le Conseil de transition, car plaide Nicolas Sarkozy, rien ne serait pire de se retrouver dans un scénario comme on l'a vécu avec la Somalie, sans dirigeants et sans représentants. Enfin, la France demande la création de zones humanitaires en Afrique du Nord, pour gérer la question angoissante des déplacés, précise Nicolas Sarkozy. La discussion vient de s'ouvrir ici entre les dirigeants de l'Union. Elle sera longue et sans doute très animée.
Alain Franco en direct de Bruxelles et nous sommes en ligne avec Alexandre Abbé. Vous êtes notre envoyé spécial sur place en Libye en direct de Benghazi. Quelle est la situation dans cette ville? Je crois que nous avons perdu Alexandre Abbé. On essaiera de le retrouver un petit peu plus tard dans ce journal. Dernier volet de notre série de reportages autour des élections cantonales. À Fribourg, les partis politiques rencontrent leurs électeurs au mythique Café du Tunnel. Pierre Bercé est allé prendre la température lors de la soirée consacrée au Parti Radical. C'était hier soir.
Oui. Plus de bistrots enfumés, plus de tournées générales, plus de polémiques ni d'invectives personnelles. Le ton est courtois à Fribourg. La politique revient au bistrot par son café politique, à l'initiative de Nathalie Bloch, tenancière et ce soir animatrice du débat.
Bah, le sens, il est dans les gens, même s'ils ne sont pas très nombreux aujourd'hui, mais on a pu se mettre autour d'une seule table, environ 12 personnes. Le sens, c'est vraiment faire du débat, mais dans la proximité, pas passer par les médias, mais apostropher les politiciens, leur donner un certain temps de parole, et que le public aussi ait un certain temps de parole, et puisse revenir sur une question ou sur une explication, si elle en a besoin. Donc un débat vraiment dans la proximité, dans le face-à-face, dans la franchise.
Je me pose la question, mais si on a tellement de fonctionnaires, est-ce qu'on ne pourrait pas leur demander de faire ce genre de tâches? Ça, c'est la première réflexion. Je me dis, comment ça se fait que le citoyen doit faire une telle administration personnelle si on a déjà une administration qui est trop bien lotie?
Il y a peu de monde, la quantité ne fait pas la qualité. Finalement, est-ce que les gens ne prêchent pas des convaincus qui viennent là?
Alors ce soir et lundi soir aussi pour le PDC, c'est vrai qu'il y avait une majorité de la famille PDC. Ce soir effectivement on a des gens proches du PLR, mais pas tous. Il y a aussi des gens qui ne sont pas affiliés, qui sont d'une autre formation politique, même des élus. C'est sûr que pour l'instant le débat contradictoire c'est pas fait. Est-ce qu'il se fera avec l'UDC, la liste de gauche? Mais au moins il y a des échanges, il y a des questions qui se posent, des erreurs qui ont été avouées aussi. Enfin je trouve que c'est... Ça va dans tous les sens, et aussi dans le sens de l'autocritique, ce que je trouve assez intéressant.
Je suis socialiste.
Vous êtes ?
Socialiste.
Qu'est-ce que vous pensez de ces débats ce soir ?
Très instructif. Et c'est bien d'aller écouter ce que disent les autres aussi.
L'esprit du bistrot recréé pour permettre aux partis qui n'organisent plus rien de rencontrer leur clientèle et leur électorat, ou de croiser le fer avec d'éventuels concurrents.
Un reportage signé Pierre Berset. Forum sera en direct de ce fameux Café du Tunnel ce soir pour débattre de l'avenir de la ville de Fribourg en vue des communales du 20 mars. Vous pourrez retrouver Laurent Keller et ses invités dès 18h35 sur la première.
Le 12h30, David Racana.
Le Servette Football Club va reprendre l'exploitation du stade de Genève. Le club qui appartient à l'homme d'affaires iranien Majid Pichiar bénéficiera de tous les revenus liés à l'exploitation du stade, mais il en assumera aussi toutes les charges. Ce contrat ouvre des perspectives sportives et politiques puisqu'il règle la problématique liée au financement de la fondation du stade de Genève. Karine Suigny a recueilli les précisions du conseiller d'État Marc Muller. Écoutez.
Je crois qu'on arrive au bout du tunnel, on arrive à la fin de toutes les tribulations consécutives à la construction du stade, au financement du stade, qui a été une aventure difficile, mais aujourd'hui, avec ce contrat, on sort enfin du terrain politique et on va se concentrer maintenant sur le sport.
Ça veut dire qu'il n'y aura plus d'argent public investi dans le stade?
Exactement, ça signifie qu'il n'y a plus besoin d'envisager de subventions pour la fondation du stade. C'est un débat que nous avons eu ces derniers temps au Grand Conseil. En 2008, 2009 et 2010, la fondation n'a pas eu besoin de subventions parce qu'ils ont bien mené leur barque et ils ont pu présenter des comptes équilibrés. Mais on n'avait aucune garantie que pour l'avenir, il en aille de même. Maintenant, c'est le cas avec la signature de ce contrat d'exploitation. Et donc, il n'est plus question de faire voter une subvention pour la fondation.
Et précisons que le contrat signé ce matin entre la fondation du stade de Genève et le club de football porte sur une durée de 32 ans. En ski alpin, Didier Cuche est le grand favori pour remporter la Coupe du Monde de descente. À 3 épreuves de la fin, le Neuchâtelois comptait 65 points d'avance sur son poursuivant direct, l'Autrichien Michael Walschhofer. La première descente se déroule en ce moment même en Norvège, à l'Intevo.
Oui, et Didier Cuche n'a pas vraiment réalisé une bonne affaire puisque Michael Walschhofer, 3e, vient de reprendre 15 points. 5e Didier Cuche ce matin à Kuitfeld, mais rien n'est perdu pour le Neuchâtelois qui, sauf rebondissement, devra attendre l'ultime descente de Lanzarote, car pour remporter le globe de cristal en descente demain en Norvège, il faudrait une victoire ou un podium de Didier Cuche, mais aussi que l'Autrichien ne marque pas ou peu de points. Mais la bonne surprise du jour est venue de Beat Feutz. Le jeune Bernois de 24 ans a signé son premier podium en Coupe du Monde, et quel podium, puisqu'il a remporté la première descente de Kuitfeld devant le Canadien et champion du monde de descente en titre, Eric Guet, 2e à 5 centièmes. Les écarts sont très minimes. Michael Walschhofer termine 3e à 11 centièmes. Didier Cuche se classe 5e à 24 centièmes de Feutz. Côté suisse, à noter encore la 8e place de Patrick Kung, la 11e de Carlo Janka et la 14e de Sylvain Zurbriggen. Tous ces descendeurs se retrouveront demain à 11h30 pour la 2e descente de Kuitfeld et avant-dernière épreuve de la saison.
Et en parlant de sport, vous inaugurez demain soir la nouvelle formule de l'émission Sport Premier. Patrick Delétro, le rendez-vous sportif, grand rendez-vous du samedi, fait peau neuve.
Oui, nouvel indicatif, nouveau découpage également de l'émission que j'ai le plaisir de produire avec Laurence Bolomet et Joël Robert. Le programme de l'émission présente bien finalement cette formule un peu différente. Nous suivrons en début de soirée la partie entre Zurich et Sion, puis retour sur l'actualité de la semaine. On parlera surtout de hockey sur glace. Et puis chaque samedi, nous recevrons une personnalité du monde du sport. Demain, invité exceptionnel, Kojovi Obilale, blessé dans l'attaque du quart de l'équipe de football. football du Togo qui se rendait, c'était le 8 janvier dernier, à la Coupe d'Afrique des Nations. Le gardien togolais a vécu l'enfer, il s'en remet petit à petit. Il témoignera donc demain soir dans Sport Première. Et puis, nouvelle rencontre avec deux stars du cyclisme, interview croisée entre Fabien Cancellara et Andy Schleck. Puis nous terminerons la soirée avec l'actualité du jour, interview, réaction entre 22h et 22h30, donc plus d'invités en direct, mais toujours les coulisses du sport et les grands directs, bien sûr. Tout cela dans un nouvel écran.
Sport Première, nouvelle formule à découvrir demain soir dès 19h. On prend des nouvelles de la route.
Infotrafic RSR.
Sur l'autoroute Lausanne-Genève, la circulation est ralentie entre l'échangeur du Vengeron et la jonction de Mérin en direction de la France en raison de l'affluence au salon de l'auto. Les automobilistes se rendant à cette exposition trouveront encore quelques places au parking de Vernier. Ceux de la zone de l'aéroport sont complets. Et puis dans le canton de Vaud, la route du col de la Givrine est fermée dans les deux sens entre Saint-Sergue et la Cure. Suite à un accident, il est conseillé de se détourner par le col du Marcheru ou par le col de la Faucille en France. Et on retrouve, comme tous les vendredis, la carte postale chinoise de notre correspondant à Pékin, Alain Arnaud, qui nous parle des réactions officielles après l'annonce hier de l'arrêt imminent des fonctions politiques du Dalai Lama. Les autorités chinoises estiment que c'est une ruse de la part du chef spirituel des Tibétains, alors que le Tibet commémore les soulèvements anti-chinois de mars 1959 et 2008.
Attention, sujet tabou. Aux abords du temple des lamas à Pékin, des moines me saluent, mais ils s'empressent de déguerpir quand j'évoque le Dalai Lama. Dans un magasin d'articles religieux, les patrons tibétains s'excusent de ne rien pouvoir me dire, c'est trop sensible. Dans une autre échoppe, surprise, un vendeur prend son courage à deux mains. Je suis très content, il démissionne, je n'ai jamais soutenu son action, je suis contre lui, m'explique-t-il avant de me parler de ses clients tibétains.
La plupart l'aiment plutôt bien, mais peu d'entre eux soutiennent l'indépendance, parce que notre gouvernement s'occupe bien des Tibétains.
Un Tibétain, en voilà justement un qui passe, un jeune homme en habit de moine qui débarque de Lhasa, à Pékin pour la première fois. Et il accepte de parler.
La Chine fait quelque chose d'un peu faux. Il nous méprise un peu. Parfois nous sommes habillés comme moi, alors ils nous contrôlent. Et quand nous sommes en groupe, habillés comme ça, c'est sûr qu'ils vont nous contrôler. Ils disent que nous devons nous habiller comme eux. Mais nous, on n'y pense même pas.
Lui ignore encore que le Dalai Lama vient d'annoncer son retrait politique. De toute façon, c'est son pouvoir spirituel qui compte avant tout.
Le Dalai Lama est le vrai Lama. Chaque fois qu'il parle, nous répétons ce qu'il dit. Nous suivons ses paroles. S'il nous dit d'aller quelque part, de faire quelque chose, nous le faisons et le suivons. Le Dalai Lama est vraiment un grand Bouddha vivant. Si tu dois vivre dans une de ces régions tibétaines, tu ne peux que l'aimer. Là-bas, c'est l'attitude de tous les Tibétains, c'est sûr.
Difficile d'en avoir le cœur net, le Tibet reste fermé aux touristes durant tout le mois de mars et en permanence aux journalistes étrangers.
C'était la carte postale chinoise de notre correspondant à Pékin, Alain Arnaud. Pas de photos à consulter en ligne cette semaine en raison de la censure qui règne actuellement dans le pays. L'argent est un support vide sur lequel nous projetons nos croyances. Il devient donc ce que nous pensons, consciemment ou non, et nous renvoie des preuves concrètes qu'il est en effet ce que nous pensions qu'il était. C'est assez compliqué. Ces quelques lignes, on les trouve sur le prospectus de présentation de l'atelier que vous animez ce week-end à Saint-Maurice-en-Vallée. Christian Junot, bonjour.
Bonjour.
On va d'abord parler un peu de vous avant d'entrer dans le vif du sujet. Vous êtes licencié en sciences économiques. Vous avez travaillé pendant plus de 20 ans dans une banque internationale suisse comme conseiller placement. Qu'est-ce qui vous a poussé finalement à quitter cet univers pour celui de la formation ?
Alors écoutez, il y a un moment donné où je me retrouvais plus en termes de valeur, ce que j'avais envie de vivre au quotidien et ce que je vivais dans mon travail. Et c'est vrai que depuis une dizaine d'années, en parallèle à mon travail, je faisais beaucoup de ce qu'on appelle du développement personnel. Et l'être humain était vraiment ma passion et la finance de moins en moins. Donc ce qui m'a amené effectivement à changer de direction.
L'atelier que vous animez ce week-end s'intitule « Ma relation à l'argent ». Il s'adresse à qui finalement ? À ceux qui ont un problème avec ou pas forcément ?
Alors écoutez, oui, je dirais dans le sens que la première condition, c'est d'avoir déjà une conscience, avoir pris conscience que ma propre relation à l'argent est difficile, qu'elle peut être lourde, un peu inconfortable, et que j'aimerais en tout cas améliorer ça, vivre ça de manière plus fluide.
Alors on va prendre quelques exemples concrets, si vous le voulez bien. Le cas de quelqu'un de radin, qui a beaucoup de peine, par exemple, à dépenser de l'argent. Comment est-ce que vous l'aidez, vous, Christian Junot ?
Alors bon, on va essayer de comprendre effectivement qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors, bien sûr, je peux généraliser quelque peu à travers votre question en disant peut-être bien que si pour moi l'argent c'est la sécurité, et Dieu sait si nous trouvons beaucoup ça en Suisse, effectivement, et ça veut dire que pour moi, inconsciemment, chaque fois que je dépense de l'argent, c'est comme si je m'enlevais un bout de sécurité.
Et que je me mettais en danger.
Voilà, exactement.
Et à contrario, quelqu'un qui est incapable de faire la moindre économie, qui flambe, qui dépense sans compter au risque de s'endetter?
Alors, en règle générale, ce sont plutôt des personnes qui ont une projection sur l'argent négative. J'ai des exemples, des personnes qui trouvent que l'argent est une charge, l'argent est dangereux et source de conflits. À partir de là, et c'est souvent inconscient bien sûr aussi, à partir de là, comment voulez-vous garder l'argent quand inconsciemment vous dites « oulala, c'est dangereux d'en avoir ». Donc c'est plus fort que vous, vous le dépensez parce que c'est comme si vous aviez du feu en vous, c'est dangereux, effectivement, vous le dépensez plus vite que prévu.
Un autre exemple, on peut avoir parfois un certain malaise à dépenser de l'argent. Si on pense par exemple à d'autres personnes qui en ont moins, quel conseil vous donneriez pour lever finalement ce sentiment peut-être de culpabilité qu'on retrouve parfois?
Alors écoutez, le conseil, je dirais, c'est d'aller voir qu'est-ce qu'il y a effectivement déjà derrière le fait d'avoir un malaise, qu'est-ce que ça signifie chez moi. En tout cas, dans mon expérience, j'ai pu voir que la manière dont j'ai vécu la relation à l'argent dans ma famille avait passablement d'impact dans ma propre relation à l'argent. C'est-à-dire que ou bien je vais faire la même chose, ou au contraire, je vais faire tout à fait l'inverse, mais d'une manière aussi souvent inconsciente, et c'est pas très heureux.
Alors justement, l'éducation et le milieu social dans lequel on grandit influencent forcément nos rapports futurs à l'argent. On le sait, on est dans une société d'hyperconsommation, les tentations de dépenser de l'argent sont permanentes. Comment est-ce qu'on doit en parler aux enfants? Quelle valeur leur donner à cet argent?
Ben, effectivement, pour moi, ce qui est important, c'est vraiment d'être en conscience quand je dépense de l'argent. Donc vraiment de le faire parce que je vois une utilité, je vois peut-être le plaisir que ça va m'offrir, mais que ce soit pas quelque chose qui soit comme plus fort que moi, en quelque sorte. Parce que effectivement, le fait de dépenser parce que j'ai l'impression d'exister au moment où je dépense, ça sera un bien-être de très courte durée. Et au bout du compte, ça ne va pas suffire sur le long terme.
Et les enfants, on les éduque comment par rapport à l'argent?
Oh, écoutez, je suis peut-être pas un spécialiste sur l'éducation des enfants, bien que j'en ai trois, mais néanmoins, en tout cas, je crois, c'est de les amener à se responsabiliser par rapport à un argent de poche, et effectivement, à ce qu'ils assument les conséquences de la manière dont ils vont le dépenser. Je donne l'exemple, s'ils dépensaient tout de suite, eh ben ma foi, ils auront à attendre la prochaine arrivée d'argent et de vivre avec la frustration qui va avec. C'est aussi un apprentissage de la vie.
Cet atelier que vous organisez, Christian Junot, il dure 2 jours. Ça se passe comment concrètement? Vous abordez plusieurs thématiques, il y a des ateliers, des échanges, des groupes de parole?
Alors, ça se passe en deux parties. Une première partie qui dure en gros une demi-journée, où j'amène effectivement l'approche qui a été donc développée par Peter Koenig et qui permet aux participants d'aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière ma propre relation à l'argent. On leur propose ici un petit travail biographique justement sur leur relation à l'argent depuis leur premier souvenir lié à l'argent, parce qu'on va voir effectivement ou déceler des choses intéressantes. Et par la suite, nous allons vraiment travailler dans la situation concrète. Alors les thèmes qui seront abordés seront vraiment les thèmes amenés par les participants, et c'est ce qui est très intéressant, c'est que d'une fois à l'autre, les thèmes peuvent beaucoup varier. Ça peut être autant les questions d'héritage que les questions de dette, que les questions de ne pas pouvoir dépenser et ce genre de choses.
Merci beaucoup Christian Junot d'être venu quelques minutes dans ce journal. Vous animez donc un atelier ce week-end intitulé « Ma relation à l'argent ». C'est au foyer des Franciscains de Saint-Maurice-en-Vallée. Un atelier, puisqu'on parle d'argent, qui coûtera 300 francs aux participants. Merci, bon après-midi à vous.
Merci.
Un mot de la bourse pour vous dire qu'à la mi-journée, l'indice SMI est en baisse de 0,76% à 6 356 points. Il est temps de prendre des nouvelles du ciel. Avec Stéphanie Koller.
Des nuages couvrent encore la région des Trois Lacs, mais ils laisseront bientôt la place au soleil. Les maxima en plaine atteindront 15 degrés. Demain, la matinée commencera avec un temps partiellement ensoleillé sur l'ouest et assez ensoleillé en Valais. En cours de journée, le ciel deviendra de plus en plus couvert en commençant par l'ouest. Le ciel sera très chargé sur l'ouest du bassin lémanique et le Jura, mais restera sec. La partie nord du plateau sera moins nuageuse. Le fun permettra quelques éclaircies dans les Alpes. En revanche, la crête et le versant sud des Alpes valaisannes seront très couverts toute la journée, avec des précipitations l'après-midi. Les maxima se situeront vers 13 degrés et jusqu'à 17 degrés dans les vallées à Feun. Un fort vent du sud sévira en montagne, il sera tempétueux sur les cols. Le temps sera très nuageux dimanche avec quelques pluies sur l'ouest lémanique et la crête des Alpes valaisannes, mais restera généralement sec en Valais.
La météo avec le Salon de l'Auto du 3 au 13 mars à Genève.
Fin de ce journal, merci de votre fidélité, merci à la rédaction, à l'équipe technique d'avoir contribué à sa réalisation. Je vous en rappelle la principale information, 44 morts, dernier bilan officiel fourni ce matin par les autorités japonaises après le séisme d'une magnitude de 8,9 sur l'échelle de Richter qui a frappé le pays. C'est la plus violente secousse jamais enregistrée au Japon. Lundi, Natacha Van Kutsem recevra Anne Tours, pédiatre, épidémiologiste, directrice de recherche à l'INSERM, expert auprès du programme Prévention de la violence et des traumatismes de l'OMS. Elle participe à un colloque jeudi prochain à l'Université de Lausanne sur la fréquence de la maltraitance des enfants. Ce journal sera diffusé dans quelques secondes sur Espace 2. Excellent week-end à l'écoute de nos programmes, il est 13h.